Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est Amanda Sterz, romancière et cinéaste. Mais là, on parle de son nouveau roman, Le Café Suspendu. Vous comprendrez pourquoi ce terme. Et Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et Marc-Antoine Lebret sera avec nous pour clore l'émission. Bonjour Aloïs Goire.
Bonjour Philippe.
Sébastien Bordenave, je vous salue également.
Bonjour.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les temps forts de l'actualité médiatique et ce matin, vous avez choisi d'évoquer une séquence très difficile, la mort d'une journaliste de la chaîne qatarienne Al Jazeera.
Oui, ça s'est passé hier matin, Philippe. Une reporter de 51 ans, Sherine Abou Akleh, a été tuée d'une balle de fusil mitrailleur en plein visage. Et hier soir, par exemple, dans le 20h de TF1, Gilles Boulot a traité l'information comme ceci.
La journaliste Sherine Abou Akleh a été tuée ce matin à Jenin, en Cisjordanie occupée. Elle portait un gilet pare-balles, un casque et un sigle presse très lisible.
Il en a fait une brève. Alors c'est très généralement exactement comme ça que ça se passe lorsqu'un journaliste est tué. L'information est relayée au mieux par une simple brève. Pourtant, hier, de nombreuses chaînes de télévision ont donné un écho nettement plus important que d'habitude à la mort de cette femme. En France, TV5 Monde, France 24, mais également les émissions Quotidien et C'est à vous, ainsi que toutes les chaînes d'information ont couvert très amplement ce drame, tout comme le 19-20 de France 3 ou encore le 20h de France 2.
Sherine Abou Akleh était l'un des visages du journalisme dans les territoires occupés. Aussi discrète que pugnace, elle couvrait depuis 20 ans le conflit israélo-palestinien.
Alors pourquoi ? Pourquoi une telle différence de traitement avec ce qui se pratique traditionnellement ? Eh bien pour deux raisons, Philippe. La première, c'est qu'on ne connaît pas l'identité du tireur. On ne sait pas, comme l'a dit hier soir Anne-Sophie Lapix, s'il est palestinien ou bien israélien.
Mise en cause, les autorités israéliennes accusent les Palestiniens. Washington et l'ONU réclament une enquête indépendante.
Alors en plein conflit israélo-palestinien, c'est une question majeure bien sûr, mais ça n'est pas ce qui suffit à justifier que cette fois-ci, les télévisions aient largement relayé l'information. Ce qui explique l'ampleur de la couverture médiatique, c'est que pour une fois, des images de la mort d'une journaliste, c'est-à-dire de la matière première facilement exploitable par les télévisions et extrêmement forte en émotion, ont été filmées et instantanément mises en ligne par la chaîne Al Jazeera. C'est une séquence extrêmement difficile à regarder, dont même le simple son vous glace d'émotion. À l'image, on voit d'abord un homme. Il est seul dans le plan et il appelle Sherine. La caméra panote alors sur la gauche et l'on découvre deux femmes. Elles portent un casque et un gilet pare-balles sur lequel il est écrit en très grosses lettres le mot « presse ». L'une d'elles est accroupie, prostrée, elle a le visage tétanisé par la peur, l'autre est allongée, face contre terre, elle ne bouge plus. C'est elle, la journaliste d'Al Jazeera, et l'homme qui criait au tout début de la séquence se remet à crier encore plus fort, comme s'il voulait la réveiller. La caméra zoom, le plan est serré sur les deux femmes et l'on entend cette fois des cris totalement déchirants. Ceux qui résonnent le plus fort sont ceux de l'homme que l'on a vu au tout début de la scène. Ceux plus étouffés proviennent de la jeune journaliste qui se tient accroupie. Tous deux viennent de comprendre que Sherine ne bougerait plus, plus jamais, et nous avec eux. Alors c'est une image terrible, Philippe, mais c'est probablement une image nécessaire. Une image qui m'en a d'ailleurs rappelé une autre, celle du petit Elan Kurdi, 3 ans, retrouvé mort noyé et échoué sur une plage turque à l'été 2015. Lui aussi avait été photographié dans la même position, la joue contre le sol. Lui non plus ne s'est jamais réveillé, dormeur du Val 2.0. Il était devenu en un éclair le symbole du martyr des migrants en Méditerranée. Eh bien 7 ans plus tard, cette image terrible de Sherine Abou Akleh donne corps à celui de toute une profession. Rien que pour 2021, 46 journalistes ont été tués sur la planète. Ça fait pratiquement un chaque semaine tué, alors qu'ils étaient, comme Sherine Abou Akleh, tout simplement en train de faire leur travail.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, et je précise, Louise Bernard l'a dit, il y aura un documentaire ce soir sur le papa du petit Aylan, sera à 23h05 sur France 2. Héloïse Goua, tout à fait autre chose, votre indispensable du jour, beaucoup plus joyeux.
Pas tellement plus joyeux, il y a de la violence quand même. Hein.
Oui.
Ça vous dit quelque chose, The Wire, la série ?
Oui.
Eh bien, les créateurs sont de retour. Du coup, je vous emmène à Baltimore dans les années 2000, là où les flics sont plus voyous que les voyous. Il y a du sang aussi, malheureusement.
Si on avait dit non, les créateurs étaient quand même de retour. Sébastien Bordona, votre indispensable.
J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé, c'est pas de moi, mais du coup.
Je sais qui a dit ça. Qui ? C'est George Best.
Je vous propose sa bio en BD et c'est pas que pour les fans de foot.
Dans un instant, Amanda Sterz avec nous à parler de son nouveau roman Le Café Suspendu.
9h-11h Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Amanda Sterz.
Bonjour.
Vous êtes romancière, traduite en 14 langages lus, des biographies dont celle de Johnny, mais surtout une quinzaine de romans, dont Ma place sur la photo, Chicken Street, qui avait été lu en Italie, meilleur roman de l'année 2005. Vous avez également réalisé 4 films. Après Lettre d'amour sans le dire, vous étiez venu nous en parler ici dans Culture Média. Voici Le Café Suspendu chez Grasset. Alors vous aimez changer de forme quand vous démarrez un nouveau livre. Le précédent était composé d'une longue lettre d'amour à un masseur japonais. Cette fois-ci, c'est très différent, on pourrait dire. Sont à la fois des nouvelles et pourtant un roman. Racontez le procédé, Amanda Sterz.
En fait, c'est construit comme un opéra italien avec sept tableaux et des intermèdes, en fait, que j'appelle, qui sont appelés intermezzo dedans, qui sont donc des intermèdes et une finale et une ouverture à l'italienne. Donc, c'est vraiment construit comme ça. Et c'est sept histoires qui sont toutes tenues par un seul fil qui est à la fois la voix du narrateur et le café suspendu.
Alors vous dites une ouverture à l'italienne, déjà c'est en Italie. J'allais vous demander d'où êtes-vous parti, mais où êtes-vous parti ? Ces histoires ont en commun que tout se passe à Naples.
Oui, c'est le décor du livre et c'est presque un personnage d'ailleurs.
Alors il y a un autre personnage, c'est une sorte de narrateur, c'est un Français qui a échoué à Naples. Qu'est-ce qu'il fait là ? On ne sait pas trop.
Il vient le cœur brisé, en fait. Il arrive et quand, sans tout révéler, mais quand il arrive, il a une rupture amoureuse et c'est le moment du tremblement de terre de l'Irpinia dans les années 80. Donc, un fait très connu et très, encore très douloureux dans l'esprit des Napolitains. Et il a l'impression que la terre, en fait, souffre avec lui, que la ville le comprend tellement qu'elle se secoue au moment où sa vie à lui s'effondre et il reste.
Il fait la connaissance d'un patron de café qui s'appelle Maurizio, qui lui propose de s'installer dans une petite chambre au-dessus de son café. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il est observateur, il voit tout ce qui se passe. Là, je suis obligé de vous demander, il faut expliciter, qu'est-ce qu'on appelle à Naples un café suspendu, qui est le titre de ce livre ?
Alors, c'est une tradition qui s'appelle le café sospeso. Quand on est dans un café à Naples et qu'on se paye une tasse de café, on peut en payer une seconde qui sera laissée à une personne qui n'a pas les moyens de s'en payer. Hein. Donc, elle est à l'ardoise et quand quelqu'un qui n'a pas d'argent rentre à Naples dans un café, il peut demander est-ce qu'il y a un café suspendu et le boire. Et du coup, rester dans la vie, rester dans le lien social, c'est une sorte de tout petit acte de générosité, de charité invisible.
Est-ce que vous racontez un Naples réel ou un Naples fantasmé ? Vous avez écrit ce roman pendant le confinement, vous étiez en France, vous étiez aux États-Unis, vous étiez en Italie, vous étiez où ?
Non, j'étais chez moi aux États-Unis, j'ai regardé Google Earth, j'étais déjà venue à Naples il y a longtemps, mais j'avais que des souvenirs, des émotions et j'ai commencé à regarder beaucoup de films napolitains. Je regardais l'adaptation de La Mie prodigieuse. Je me berçais de Naples et j'ai inventé un premier Naples. Et ensuite, une fois le livre écrit, j'y suis retournée et j'ai nourri le livre de
Mais le café sospeso, ça existe vraiment ou est-ce que c'est
non,
comme
le café sospeso, ça existe.
Ça marche vraiment parce que c'est pas comme Il est in Paris où les gens marchent dans la rue avec une baguette sous le bras et un béret sur la tête,
non,
ce qui existe plus depuis 54.
Alors non seulement ça existe, mais l'ONU vient de demander à le classer. On vient de demander à l'ONU de le classer comme patrimoine immatériel
de l'humanité. C'est formidable.
Et donc c'est vraiment une tradition napolitaine que tout le monde connaît, mais qui ne se pratique pratiquement qu'à Naples. C'est-à-dire que ils ont essayé de l'installer à Rome, ils ont essayé de l'installer à Milan. Il y a 2-3 cafés tenus par des Napolitains où ça marche, mais c'est vraiment très, très localisé. Et même en France, ils ont essayé de le faire avec des baguettes. Des baguettes suspendues, et ça a pris. Il y a quelques boulangeries qui le font, mais ça n'a pas tenu longtemps.
Alors, c'est aussi un roman, mais c'est aussi une fable, un conte impossible à résumer en seulement 4 pages. Il y a, par exemple, une scène d'amour dans une rue de Naples avec un cunnilingus torride, un médecin qu'il faut aller voir seulement quand on va bien, des pandas fantômes, un foulard magique qui se comporte comme un homme jaloux. Ça, c'est seulement 4 pages d'une histoire qui n'est même pas toute l'histoire. D'où vous viennent toutes ces histoires, Amanda Sterz ?
Oui, c'est riche. Je voulais quelque chose comme dans les films italiens, justement, de très riche, avec des personnages en couleur. C'est du travail. C'est vraiment beaucoup de travail parce que effectivement, il y a des idées partout. Il y a plein de... Chaque histoire pourrait être un roman en soi.
Bien sûr.
Mais c'était assez jubilatoire, justement, d'offrir autant d'anecdotes aux gens.
Mais c'est vous qui avez la tête qui tourne comme ça à 2000 à l'heure, comme Salvador Dali, par exemple, qui inventait histoire sur histoire et qui faisait des rêves absolument dingues.
Il faut croire, mais voilà, c'est juste que j'ai fourni ce que j'aurais dû fournir pour 7 livres en un, parce que, comme lectrice, j'adore ça.
Vous étiez déjà comme ça, toute petite ?
Ouais.
C'est le portrait préfème de Lisa Marie Marquez. On va vérifier ça. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours effectivement dans Culture Média, on est en compagnie de l'auteur Amanda Sterz pour son livre Le Café Suspendu, mais pas seulement. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Amanda Sterz. Vous êtes dotée de multiples talents, écrivaine reconnue, mais aussi scénariste, dramaturge, réalisatrice. Mais comment en êtes-vous arrivée là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Amanda Sterz, vous êtes née et vous avez grandi à Paris. Enfant, vous êtes un peu garçon manqué et vous apprenez l'art de développer votre imaginaire lors des spectacles où vous emmène votre père, des spectacles pour les grands, à la Comédie Française par exemple, où vous êtes émerveillée et parfois vous vous ennuyez aussi, je crois.
Voilà, à la Comédie Française, je ne m'ennuyais pas, mais il m'emmenait voir des kabuki japonais. Et là, c'était compliqué. À 10 ans, je tapais des kabuki qui durent 3h30.
Tout en japonais ?
Tout en japonais, ouais. Et comme j'avais un côté un peu bon élève et que je voulais pas dire... Je voulais jouer l'antello, quoi. Je faisais comme si ça, c'était très intéressant. Et tout. Je me rappelle de longs moments d'ennui.
De longs moments d'ennui. Il y a aussi les histoires que vous racontent vos parents le soir, celles qu'invente votre père et celles que vous lit votre mère sur la forêt de Brocéliande ou les contes de sa Bretagne natale. Vous passez d'ailleurs vos vacances chez vos grands-parents dans le Finistère ou chez votre grand-père paternel à Netanya, en Israël. Et du côté des saveurs, je crois que votre plat d'enfance, ce sont les spaghettades. Les spaghettades, c'est ça ? J'ai bien dit ?
C'est quoi ?
C'était juste des spaghettis à la sauce tomate, mais mon père appelait ça la spaghettade. On va manger la spaghettade, je sais pas. Elles étaient un peu spéciales, un peu piquantes, un peu arrabiata, quoi.
Ah, d'accord. Ouais.
Votre père exerce le métier de psychanalyste, Amanda Sterz. Il ne soigne pas avec des médicaments, mais avec des mots. C'est ce qu'on vous explique. Et il paraît qu'il vous a laissé assister à quelques séances. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende ?
Alors, il était psychiatre et psychanalyste. Il y a un patient avec lequel il s'est lié d'amitié, qui était un peintre. Et il le prenait souvent en fin de journée. D'ailleurs, il payait avec des tableaux, parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Et j'en ai gardé. Et j'étais vraiment toute petite, donc je ne me rappelle pas vraiment de ce qui était dit, mais c'est vrai qu'il parlait avec... J'étais sur ses genoux, quoi, à la fin de la séance.
Et le peintre est devenu célèbre ? Parce que si c'est Renoir ou si c'est Combas
non,
ou Di Rosa ?
Non, il n'est pas devenu célèbre, mais il a un talent fou, et donc je suis toujours hyper heureuse d'avoir ses tableaux à la maison.
Déjà enfant, vous aimez écrire et surtout être lu. Il paraît qu'il vous arrive même de sécher des cours pour aller traîner en ville, prendre des bus au hasard pour observer et répertorier dans votre carnet les visages des gens que vous croisez.
Ouais, ça c'est une bonne façon d'expliquer pourquoi je séchais les cours, mais c'est surtout parce que je glandais. Que je...
Ah ouais, vous alliez boire des bières.
Ouais, c'était pas que poétique, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup écrit, donc il fallait bien qu'il y ait des moments d'écriture et d'inspiration. Ouais.
À l'adolescence, vous êtes aussi sportif, vous faites de l'équitation et des concours de saut d'obstacles. Il vous est même arrivé de vous casser la clavicule, mais vous avez continué à monter à cheval. Du côté de vos séries cultes, parmi celles qui ont nourri votre imaginaire d'adolescente, on retrouve Parker Lewis Ne perd jamais.
C'est vrai, j'adorais Parker Lewis. C'était complètement barré, c'était très drôle.
Moi, je connais pas.
C'est vrai.
C'est générationnel, donc
ouais,
moi, j'ai.
C'est bon, on n'est pas le vent du même âge, mais.
Bien sûr.
C'est Parker Lewis ne perd jamais. C'est ouais, ça. C'était très très drôle parce que il y avait un mec qui avait, comme l'inspecteur Gadget, il avait un long manteau. Il ouvrait son manteau et il avait tout à l'intérieur, tout ce qui avait un cintre, des barbes à papa, des trucs. C'était assez barré et c'était très très drôle. Il y avait beaucoup de second degré.
Du côté de vos musiques cultes, il y a d'abord David Bowie. Mais votre chanteur fétiche, Amanda Sterz, c'est George Michael.
J'avais
Ça vous a fait respirer comme si vous étiez amoureuse de lui.
J'avais un poster au-dessus de mon lit, ça m'a fait respirer parce que ça m'a fait rire, parce que j'avais un poster au-dessus de mon lit et j'avais aucune idée qu'il n'aimait pas les femmes parce qu'à 10 ans, on ne sait pas quoi. Et je pensais sincèrement que j'allais me marier avec George Michael. J'ai pas eu quand je le voyais danser avec un short en jean et un Marcel Rose, pour moi c'était tout à fait normal parce que j'étais une petite fille de 8 ans, je trouvais qu'il avait du goût.
C'est mon futur mari, où est-ce que je vais ranger le t-shirt et le short
J'étais vraiment amoureuse de lui et de sa voix, parce qu'il a une voix extraordinaire.
Amanda Sterge, à l'âge de 15 ans, vous envoyez votre premier roman à l'éditeur Jean-Marc Robert, qui vous encourage à persévérer. Vous êtes aussi une très bonne élève, vous passez le bac avec 2 ans d'avance. Vous êtes sérieuse, mais vous n'en oubliez pas de vous amuser aussi. Il paraît que la veille d'un oral en terminale, vous avez organisé une soirée.
Ouais, la veille de la philo.
Non.
Ouais, mais en fait, comme une idiote, parce que je faisais des... En fait, j'étais dans une école, il y avait pas mal de gosses de riches, et pour pouvoir m'aligner, je me m'étais mise à organiser des soirées. Et du coup, je faisais payer tous les gosses de l'école. Sauf que, manque de bol, j'ai organisé une soirée en sachant pas que j'allais avoir le bac ce jour-là, l'oral ce jour-là. Donc j'avais une soirée chez Castel, et j'ai fait croire que j'allais me coucher tôt. À mon père parce que j'avais le bac le lendemain, et quand il est venu taper à la porte de la chambre et que c'est ma sœur a essayé de cacher le fait que je sois sortie, etc. Voilà, c'était trop tard et ça s'est resté dans la légende des histoires de famille.
Jean-Marc Robert ne s'était pas trompé, Amanda Sterge, vous avez le sens des mots et des dialogues. Vous vous tournez d'ailleurs d'abord vers la télévision, vous écrivez les premiers épisodes de la série culte Caméra Café. Vous réalisez aussi un court-métrage, Larmes de sang, qui remporte le prix junior du meilleur scénario au Festival de Paris. Suivent les livres, le premier, Ma place sur la photo en 2004, puis Chicken Street l'année suivante, et une pièce, Le vieux juif blonde, qui braque les projecteurs sur vous en France, mais aussi au-delà de nos frontières. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci
beaucoup, Lisa-Marie Marquez, et on salue la mémoire de Jean-Marc Robert, c'est le vieux juif blonde, succès mondial, qui est aujourd'hui étudié à Harvard. Dans un instant, on va parler série, justement, avec Héloïse Goy. A tout de suite dans Culture Média, on est avec Amanda Sterz.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie d'Amanda Sterz, Le Café Suspendu, c'est son nouveau roman publié chez Grasset. Vos héros, Amanda, sont... À la fois, je les ai vus comme ça, des personnages uniques et des archétypes, ça tout le monde les voit comme ça, mais ça m'a fait penser à Kundera, ça démarre comme ça. Il y a un chapitre qui s'appelle Livia, il démarre ainsi. Livia était connue dans le quartier pour être une fille facile, son nom se promenait dans les conversations graveleuses et arrosées du café. L'architecte la surnommait l'allume-cigare et Francesco le plat de résistance. Elle était un peu trop dodue à son goût. Et ce qu'il aimait vraiment, c'était les petits desserts. Les hommes ne sont jamais tendres avec celles qui le sont trop. J'avais rien à dire au-delà de ça.
Merci pour la Kundera, je prends le compliment.
Ouais.
Oui, c'est vrai que les personnages sont tous comme ça, un peu croqués, sachant que mon narrateur est caricaturiste sur une place. Donc il y a cette envie d'avoir une sorte de dessin très rapide de la personne que je décris.
Exactement, on les voit vivre. Alors vous m'avez appris un néologisme, l'anédonie. En fait, j'ai aussi appris qu'il était de vous. Qu'est-ce que ça signifie, l'anédonie ?
L'anédonie, c'est quand on est anesthésié au sentiment.
Ça vient du préfixe grec « a », qui veut dire « non », et « édonie », comme l'hédonisme. Donc, on ne ressent pas les choses.
On ne ressent plus les choses, oui. Et souvent, après une grande douleur, on peut se mettre dans un état d'anédonie. Voilà.
Vous dites ça avec un immense sourire.
Je dis ça, en fait, avec un immense sourire, parce que j'ai commencé à me poser des questions, parce que je pense que ça m'est arrivé à un temps.
Vous pensez bien que c'est ce que j'ai compris en vous lisant.
Ouais, mais alors que, en fait, c'est bizarre, j'étais au Festival de Rome pour présenter mon dernier film. Je pense que j'avais très peur que les gens l'aiment pas. Et j'ai eu une standing ovation d'une demi-heure, un truc incroyable, que je n'osais même plus me rasseoir avec Pierre Francesco Favino, l'acteur principal. Et quand j'ai reçu cette standing ovation, je n'ai rien ressenti. En fait, je pense que comme j'avais tellement peur qu'on n'aime pas, je m'étais mise dans un état d'anesthésie momentanée et je ne m'attendais pas à... Je me suis dit, c'est tellement dommage, t'aurais dû recevoir tout cet amour et j'ai pas été capable, en fait. Et ça m'a posé une question et voilà, c'est parti.
L'anédonie. Vous êtes à l'origine des 60 premiers épisodes de Caméra Café. Je ne vais pas vous demander pourquoi, ce que vous avez fait, juste pour demander si vous êtes fan de série encore.
Je suis fan de séries complètement, ouais. J'adore, je trouve que c'est l'endroit où il y a le plus d'idées en ce moment.
Vous aimeriez en écrire une ?
Mais on vient de m'offrir d'adapter Le Café Suspendu en série, figurez-vous.
Formidable. Ouais. Et les épisodes. Ouais. Ça démarre à l'italienne.
Voilà.
Héloïse Gouab, rebonjour.
Bonjour Philippe, bonjour
Amanda. On parle de série avec vous, Héloïse. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une série très attendue, inspirée d'une enquête journalistique qui arrive tout juste des États-Unis.
Et oui, tout juste. Pour l'instant, seuls 3 épisodes sont disponibles parce que c'est encore en cours de diffusion aux États-Unis. J'ai moi-même pas pu tout voir, mais j'ai hâte. Cette série s'appelle We Own This City, en français La Ville Nous Appartient. Et elle est très attendue, vous le disiez Philippe, parce qu'elle est signée par David Simon et George Pelecanos, les créateurs de la série culte The Wire. Vous l'avez peut-être vu, Amanda.
Ouais.
En français, c'était sur Écoute, série sur la police qui a vu le jour il y a déjà 20 ans et qui a été élue l'année dernière meilleure série de tous les temps. C'était un sondage de la BBC qui a interrogé des spécialistes du monde entier. Peut-être que vous vous rappelez du générique de The Wire.
Meilleure série de tous les temps.
C'est un vote, hein?
Ouais.
Un vote des spécialistes. Alors David Simon et George Pelecanos sont donc de retour avec We Own This City. Et je peux vous dire qu'ils n'ont rien perdu de leur talent.
Alors This City, c'est laquelle? De quelle ville on parle et à qui appartient-elle cette ville?
Eh bien on reste dans le même univers que The Wire parce que cette ville c'est toujours Baltimore et elle semble appartenir aux officiers de police qui se sentent tout puissants et qui ont tendance à faire un peu trop la loi. L'histoire se concentre sur la Gun Trace Task Force. C'est une unité spéciale de la police de Baltimore créée dans les années 2000 pour éradiquer la délinquance et le trafic de drogue dans la ville. Et voilà comment on forme les agents de cette unité.
On veut des arrestations. Neutralisez les points de deal, virez les zonards, mettez en garde, on nettoie la rue.
Capitaine, vous savez bien que c'est n'importe quoi. La plupart seront libérés dès qu'ils passeront la porte.
Oui, mais ça vide les rues pour la nuit et ça les empêche de s'entretuer. C'est la priorité. Si vous n'utilisez pas vos menottes, il faudra me rendre des comptes.
Donc l'objectif, c'est d'arrêter le plus de monde possible pour, comme il dit, nettoyer la rue dans cette ville qui compte plus de 250 homicides par an. Ça, c'est la version officielle. Mais écoutez ce que dit un agent déjà dans l'unité à un tout nouveau venu.
Ce que t'as appris à l'académie sur les procédures, t'oublies direct. La formation psycho sur la sensibilité culturelle, t'oublies aussi cette merde. C'est Baltimore ici.
Ici, c'est Baltimore. Alors, on ne sait pas encore trop ce que signifie cette phrase, mais on se doute que ça sent un peu le roussi. En fait, cette unité spéciale est une unité véreuse. Presque tous les agents vont commettre des bavures plus graves les unes que les autres. Ils vont notamment fabriquer des preuves, faire du trafic de drogue. Et surtout, ils vont s'en mettre littéralement plein les poches. Et quand je dis littéralement, c'est qu'à chaque arrestation où il y a un peu de billets, on les voit se remplir les poches d'Elias. Alors, je ne rentre pas dans les détails de tous ces vols qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je vous laisse découvrir ça dans la série. Mais l'autre axe intéressant, c'est que le FBI commence à enquêter sur ces agents véreux, et agents qui sont aussi souvent très violents avec les victimes. Et forcément, pas mal d'entre eux vont finir derrière les barreaux.
Mais Loïse, tout ce qu'on voit dans cette série, tout ce que vous nous racontez, c'est réellement passé.
Et oui, tout ce scandale de corruption à grande échelle est bien réel. Et comme pour The Wire, les créateurs de cette série se sont inspirés d'une enquête journalistique parue en 2017. Enquête signée Justin Fenton. C'est un ancien reporter chargé des affaires criminelles au journal Le Baltimore Sun. Alors, j'ai pas grand chose à reprocher à cette série où les flics ripoux sont plus voyous que les voyous et montent une organisation criminelle qui ferait de l'ombre à Pablo Escobar.
Ça se voit où cette série?
Eh bien, c'est une série HBO, donc on peut la voir sur OCS. Et comme je vous le disais, seuls 3 épisodes sont disponibles pour le moment. En tout, il y aura 6 épisodes d'une heure et un nouvel épisode arrive pour le moment tous les mardis sur OCS.
J'adore, vous êtes tellement bilingue, vous dites OCS, moi je dis OCS, mais c'est la même chaîne, c'est vraiment pas grave. Est-ce que ça vous a tenté, Amanda?
Oui, beaucoup. Je trouve ça formidable quand les séries sont révélatrices de faits de société et nous mettent un éclairage très différent. Ouais, j'ai hâte de la voir.
On va redire le titre, je l'ai oublié. We Own This City.
Oui, Own
This
City.
Cette
ville nous appartient, c'est ça.
On va parler de bande dessinée, on va continuer de parler avec Amanda Sterz. Culture Média continue. Merci Héloïse.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Amanda Sterz, ça s'appelle Le Café Suspendu et je suspends ma parole pour saluer Sébastien Bordenave. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Vous
nous parlez de bande dessinée et la BD du jour s'appelle George Best. Twist and Shout, adaptation en BD d'un roman qui était sorti en 2014 de Vincent Duluc, grand journaliste de l'équipe. Le livre s'appelait George Best, le cinquième Beatles. Et donc on parle de ce mythique footballeur de Manchester United, George Best lui-même.
C'est vrai qu'on connaît tous Pelé le Brésilien, Maradona l'Argentin, Benzema le... Bah, ça dépend s'il joue bien. George Best, c'est pas évident pour tout le monde. Pour résumer, il a été au football ce que les Beatles furent à la pop, une folie, une insouciance, un appel d'air révolutionnaire vers la jeunesse.
Alors la folie George Best, c'est le début des années 60. Avant, on écoutait la radio le dimanche soir pour avoir les résultats des matchs de foot de la veille. Puis révolution, la télévision arrive et c'est parfait pour le télégénique George Best. Il a un sourire diabolique, une fossette au menton, un regard de braise, l'alliance du talent et de la bogossitude. Dans la BD publiée chez Delcourt, on le voit utiliser un sèche-cheveux dans les vestiaires après un match en s'exclamant « La coiffure, c'est comme les dribbles, ça se travaille ».
Alors George Best, moi qui aime le foot, c'est pas qu'un bel homme, même s'il est beau gosse, mais c'est surtout un footballeur exceptionnel. Mais en quoi a-t-il été unique, Sébastien ?
Alors la BD, elle raconte son histoire sportive, certes, mais aussi son destin qui va bien au-delà du ballon rond. Comprenez qu'elle est passionnante même pour ceux qui n'en ont rien à foutre du foot. Dans cette bio, on découvre comment il est recruté par Manchester à 15 ans. Deux ans plus tard, il joue son premier match dans le légendaire stade de Old Trafford. Puis il devient un mythe. En 11 ans, il va planter 181 buts avec le maillot de Manchester United. Il sera ballon d'or en 68, remportera la même année la Coupe d'Europe. C'est une méga star. Du coup, il va sortir avec des actrices, avec des chanteuses, une Miss Grande-Bretagne, deux Miss Monde. Les Britanniques deviennent fous de Best. Une phrase résume tout ça. Les femmes voulaient être George Best. Les hommes voulaient être George Best. Les femmes voulaient George Best. La moitié a eu ce qu'elle voulait.
C'est vrai que pour ceux qui le connaissent, on a l'image d'un George Best, on se souvient de ça, qui brûle la chandelle par les deux bouts. Excès d'alcool, excès de sexe aussi.
Alors ce saxo, Amanda, qui donne envie d'un dry martini préparé au shaker, c'est la BO du film Octopussy, un James Bond avec Roger Moore. Et dans les James Bond Girls, il y a la bombissime suédoise Marie Stavin. Elle fait partie du tableau de chasse de George Best. Et un soir qu'ils partagent une chambre dans un hôtel de luxe, ils commandent à manger. Le lit est jonché de billets de banque. Un petit serveur arrive, impressionné par le tableau. Best lui offre un large pourboire et au lieu de le remercier, il demande s'il peut poser une question. Bien sûr, répond le footballeur. Le serveur lui demande alors « Mais quand est-ce que tout ça a commencé à aller de travers ?»
Ah, c'est bien.
Et c'est vrai que ça va continuer à aller de travers. La chute va être à la hauteur des sommets atteints. George Best décroche donc son ballon d'or à 22 ans. Il est à son apogée. Le reste ne sera plus que descente. Le club décline. George devient alcoolique. Il s'empâte. Il cache ses kilos sous une barbe. Envisage de prendre sa retraite de Manchester United à 26 ans. Puis en fait, il se ravise. Il se fait finalement lourder par le club deux ans plus tard. Fini les dribbles. Il ne va plus enchaîner que les bons mots en interview. Il dit par exemple « J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar, j'ai jamais vu la mer. »
Et il a dit aussi « En 69, j'ai arrêté les femmes et l'alcool et ça a été les 20 minutes les plus horribles de ma vie. »
Voilà, c'est drôle, mais ça cache aussi un pathétique naufrage. George Best finit sa carrière dans des clubs de seconde zone. Il accepte de faire de la promo pour des marques peu reluisantes. Ruiné, il donne des entretiens bourrés à la BBC et un mois avant de mourir, il donne une dernière interview sur son lit d'hôpital, photo à l'appui. Le titre en une, c'est « Don't die like me ».
Ne mourrez pas.
Ne mourrez pas comme moi. Le 25 novembre 2005, Best disparaît. 300 000 personnes assistent aux funérailles. On accompagne le cercueil du 5e Beatles sur cette musique. Cette bio de George Best en BD que je vous offre, Amanda Sterz, nous émeut en racontant formidablement le destin hors norme de ce footballeur hors pair. Parmi les couronnes mortuaires, il y en a une où il était écrit « Maradona good, Pelé better, George Best ».
Oh, calembour en anglais, bravo, merci Sébastien Bonnab.
Ça serait une super série d'ailleurs.
Oui, je pense.
Ça serait vraiment bien, mais qui pour jouer George Best? Parce qu'il faut l'avoir du début à la fin.
Oui,
c'est
oui.
Rise and Fall, il faut le voir grossir, grandir, devenir une star. Et puis après, à la fin de ses jours, avec les billets de banque et le serveur qui arrive, on continue de parler de romans et d'autres choses, de cinéma avec Amanda Sterz. Je vous remercie, Culture Média continue. Il y a Marc-Antoine Lebray qui arrive, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Amanda Sterz, le café suspendu, c'est une grande tradition napolitaine. On peut, quand on arrive dans un café à Naples, commander un café pour soi-même, un de plus, on le met à l'ardoise. Et puis quand quelqu'un arrive et qu'il n'a pas les moyens pour se l'offrir, on voit qu'il y a un café sospeso, c'est comme ça.
Un café sospeso, oui.
Et on se sert, on le prend et on l'a.
Oui, on a le droit de le prendre, ouais.
Vous avez testé?
Non, j'en ai offert, mais j'en ai pas pris.
Vous écrivez ceci, je pense qu'en abandonnant son pays, enfin c'est un personnage qui dit ça, je pense qu'en abandonnant son pays, on ne trouve plus jamais la paix. Vous n'habitez plus en France.
Ouais.
Donc vous trouvez plus jamais la paix.
Je sais pas si je trouve plus la paix, mais j'ai l'impression que c'est plus chez moi en France et c'est pas chez moi aux États-Unis non plus. Et en fait, moi, je pense que quand on quitte son pays, on doit trouver son pays à l'intérieur de soi-même, en fait, parce que on n'est plus chez soi nulle part.
Pour une fois, j'ai commencé cette émission en lisant, ce qui m'était encore jamais arrivé, la quatrième de couverture d'un livre, qui était le livre de Mathieu Gallet, ce que je trouvais excellent et que ça résumait très très bien la situation. Et là, deuxième cas unique, une fois n'est pas coutume, je vais lire les deux dernières phrases, d'un livre, c'est le vôtre. Vous écrivez ceci à Amanda Sterz. « Si vous avez les moyens, je vous encourage à laisser ce récit dans une chambre d'hôtel, un wagon de train ou un bon pour qui ne pourrait pas s'offrir un livre en roman suspendu. » Référence au café suspendu, d'abord c'est une très belle idée. Est-ce que vous savez si des gens l'ont fait déjà ?
Apparemment oui. Apparemment il y a des gens qui commencent à le faire, qui l'ont laissé dans une salle d'attente. Voilà, alors c'est mon éditeur qui va être content puisque du coup les livres vont se
faire. Ça fait deux ans au lieu d'une. Ouais.
Mais c'est, enfin, nous, les auteurs, ce qu'on veut, c'est être lu. C'est ça qui est important. Et je vais bientôt lancer une initiative à Marseille de bibliothèque solidaire. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, des initiatives à faire aussi en littérature.
C'est-à-dire on pourra vous donner des livres et vous les donnerez ensuite, qu'est-ce qui va se passer ?
En fait, ce sera des bibliothèques où on pourra avoir accès à des livres contemporains que normalement on doit acheter en librairie. Pour quand on n'a pas les moyens, on pourra y avoir accès avec beaucoup moins d'argent.
Sans attendre qu'ils soient en poche.
Voilà.
Je vais également lire l'antépénultième phrase du livre en guise de morale. Vous dites « Il y a des gens heureux et ceux qui créent ». Alors évidemment, on pense à vous, mais comme vous ne créez pas qu'un peu, on en déduit que vous n'êtes pas heureuse. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Est-ce que ceci explique cela ? Et surtout, dans quel ordre ?
Alors, c'est le premier roman, en fait, de mon narrateur. Donc, je pense qu'il est lié à cette espèce de douleur dans laquelle on se met quand on écrit au départ. C'est pas du tout mon cas. Je fais très bien. Mais je pense qu'il faut, dans ses premiers livres, se débarrasser d'une chose de soi-même pour arriver ensuite à écrire d'une autre façon.
C'est pour ça que vous êtes débarrassée de votre nom. Je l'ai appris il y a très peu de temps.
Que ce n'était pas mon nom ?
Non, ouais. Je savais qu'Amanda Sterz c'était un pseudonyme. Ouais. Mais je ne savais pas que votre vrai nom est le nom d'un romancier très connu.
Ah oui, enfin le nom de ma maman, ouais.
Exactement.
Ouais.
Et j'ignorais ça totalement.
Non, je me suis débarrassée de mes deux noms juste parce que je pense que quand on est romancier, on doit être l'enfant de personne, la mère de personne, on doit être soi-même. Et je voulais pouvoir être dans une liberté totale.
Voilà, et votre nom, si je ne me suis pas trompée, si je me souviens bien, c'est Kefelec et donc on salue Yann Kefelec.
Il va être content maintenant, ça y est, j'ai fait mon coming out de Kefelec.
Voilà. Et vous vouliez pas qu'on puisse dire que vous étiez pistonné.
Bah oui,
ce d'ailleurs, c'était
pas le cas. Je crois qu'il a découvert mon deuxième livre comme ça en librairie. Et voilà, mais il a toujours été bienveillant et il m'a, voilà, je le salue. J'espère qu'on se reverra bientôt.
C'est vrai que le gars qui s'appelle Flaubert ou Balzac, courage pour publier un livre avec ce nom, c'est pas facile. Vous parliez de ce film, l'adaptation des promesses projetées au Festival de Rome, Standing Ovation, pendant 30 minutes, nous avez-vous dit. Il va sortir le film en France ?
On espère. Pour l'instant, il y a un énorme embouteillage suite au Covid de sortie cinéma. C'est un peu dur en salle, donc on attend le bon moment, mais j'espère qu'il va sortir évidemment.
Et il est sorti en Italie ?
Oui.
Et puis, puisqu'on parlait de livres de poche, je signale que votre dernier roman pour lequel nous avions reçu pour l'édition Premium, Lettres d'amour sans le dire, sort en ce moment en livre de poche. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des stars qui viennent pour nous inviter. Et ce matin, Amanda Sterz, quelqu'un que vous connaissez bien ici, puisque vous faites partie de l'équipe des Grosses Têtes, c'est Laurent Ruquier. Bonjour Laurent.
Bonjour Philippe, bonjour Amanda, et bonjour Chantal Latsou et Christine Bravo. Amanda, tu nous apprends que le café suspendu ou le café sospeso est une tradition napolitaine, on l'a dit. On offre le café à ceux qui n'ont pas les moyens. À Naples, c'est simple, soit on offre un café, soit une balle dans la tête. C'est la mort expresso. Oui, Fabrice Eboué.
Ouais, bientôt en France, avec l'inflation, on n'aura plus le café sospeso, mais un autre café italien, le paye tes agios, quoi. Et en terrasse à Paris, on pourra même commander le café Vaffanculo, quoi.
Ça existe déjà.
Café sospeso, ça veut dire café suspendu, mais vu les prix, c'est plutôt nous qui allons finir suspendus au bout d'une corde, quoi.
Ah, c'est Fabrice. Allez, on accueille un nouveau pensionnaire aux grosses têtes. Et lui, il a vraiment la grosse tête, c'est Laurent Delahousse.
Bonsoir à tous. Et surtout, bonsoir à toutes. Je tourne ma page. Amanda Sterz, initiale AS, comme authentiquement sensuel. Laurent Delahousse, initiale LD, comme long et dur.
Et modeste.
Le magazine Vanity Fair vous a élu, je cite, « écrivain le plus sexy du monde ». Mais le magazine a oublié de préciser « après Laurent Delahousse ». Car oui, moi aussi je suis écrivain, je trempe ma plume dans l'encrier du plaisir de toutes les femmes et je badigeonne la page blanche de ma semence créatrice. Julia, Mélanie, et si je devenais le marque-page de vos désirs ? Vous pouvez lécher votre doigt pour tourner les pages du livre de l'amour. Les filles, je vous préviens, mon livre se lit à une main. Ce sera un parfait roman à lire sur la plage quand les maillots de bain seront déjà mouillés.
Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Marc-Antoine Lebray qui
bonne
est
journée.
Fou, ça se confirme. Merci à tous, merci beaucoup Amanda Sterz. Le café est suspendu, c'est chez Grasset pour en acheter deux et en offrir un. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Le Grand Prix de France Moto a lieu ce week-end sur le circuit Bugatti mais également sur Canal+. Nous sommes avec les journalistes sportifs Laurent Rigal, le nouveau commentateur des courses en MotoGP et l'ancien pilote Randy Depugnet, c'est le consultant. Et puis Axel Bauer, il revient pour son nouvel album qui s'appelle Radio Londres. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous l'émission, c'est le nom de l'émission, le programme du
bonjour.
Jour.
Bonjour. Julia. Pourquoi ne pas partir en escapade ? Les vacances d'été, c'est pas tout de suite. Alors on va essayer d'imaginer où on pourrait partir pour 2-3 jours. Pourquoi pas à Naples, comme dans le roman d'Amanda Sterz. Ou bien plus, si affinité, pourquoi pas des balades en canoë, passer quelques nuits dans les arbres ou encore signer au cyclotourisme.
Ou dans les cheveux de Laurent.
Ou dans les cheveux de Laurent Delahousse. C'est un dossier en partenariat avec le magazine Avantage.
Oui, et puis dans la suite de l'émission, on parlera aussi de comment faire le bon choix pour choisir le bon oreiller. C'est très important de bien dormir.
Oui.
Donc voilà, hein, n'est-ce pas,
je suis d'accord.
Laurent Delahousse. Et puis, on vous parlera également des bienfaits de la cryothérapie. Il va y avoir un froid polaire dans cette émission.
Merci, on vous écoute. Bonne journée à tous. À demain, 9h. Merci encore, Amanda Sterz.
Merci à vous.